Bien, chers amis, à leur congrès annuel, tenu cette année à Montjoly, les créditistes du journal Verbe Demain ont voté une résolution réclamant pour chaque citoyen un dividende de $50 par mois. Et cela sans augmentation de taxes, dit la résolution. À première vue, ainsi résumé, la demande peut paraître extravagante. Comment un organisme fédéral ou provincial pourrait-il distribuer de l'argent sans en avoir d'abord obtenu par les taxes? C'est en effet impossible sans des modifications préalables au système financier actuel. La résolution, d'ailleurs, en tient compte dans son texte intégral. Elle presse les gouvernements de faire immédiatement les changements et ajustements nécessaires au système bancaire et financier pour permettre cette distribution d'un dividende périodique. Quels changements, quels ajustements apporter au système financier? Simplement, faire de la finance le miroir exact des réalités économiques. Que la finance reflète fidèlement les faits et possibilités physiques au lieu de les contredire comme c'est le cas actuellement. Plus concrètement, quand la production abonde devant les consommateurs, l'argent pour la payer doit abonder au même degré entre les mains des consommateurs. Quand la production est facile à faire, l'argent doit être facile à obtenir. Quand la production est due de plus en plus au progrès et de moins en moins au labeur humain, le pouvoir d'achat pour se procurer cette production doit provenir de plus en plus d'argent gratuit et de moins en moins d'argent gagné par l'emploi. À tel point que si toute la production était entièrement automatique, sans besoin d'un seul employé, il n'y aurait plus aucun salaire, évidemment, et pourtant, les produits devraient être distribués. Ils devraient l'être nécessairement par de l'argent entièrement gratuit. On n'en sera jamais à ce point extrême, mais dans la mesure où l'on s'en va dans cette direction, dans cette même mesure, il doit y avoir de l'argent gratuit entre les mains des consommateurs. Sinon, la finance ne représente plus les faits. Cela veut dire il faut assouplir le système d'argent pour qu'il se conforme en tout temps au mouvement, au volume et au mode de la production de richesses répondant à des besoins humains. Le système d'argent n'est point intouchable. Il n'est pas d'institution divine, mais d'institution humaine. Il peut donc être modifié par les hommes. Le système d'argent, magnifique invention des hommes, pour faciliter le choix des produits par les consommateurs, pour faciliter l'écoulement des produits par les producteurs, ce système d'argent a été vicié au cours des siècles. Il est devenu un instrument de gouvernement, de domination sur toute la vie économique par ceux qui contrôlent l'argent et le crédit, donc par le système bancaire. Les banquiers, en effet, se sont graduellement arrogés le privilège d'émettre eux-mêmes le crédit financier qui sert d'argent moderne, d'en régler le rythme, de conditionner sa mise en circulation, d'en fixer la durée et d'en exiger le retour au système bancaire. Mais cela peut et doit être changé. Les lecteurs habituels de Verbe Demain ont une bonne idée de la solution proposée. Nous n'y insisterons pas ici. Mais une fois le changement effectué, la distribution d'un dividende à tous devient une chose facile. Et comme c'est aussi une chose due depuis longtemps, sa distribution doit commencer sans plus de délai. Le dividende est une chose due, ai-je dit. Qu'est-ce en effet qu'un dividende? Un dividende, c'est le revenu d'un capital productif. Personne ne songe à refuser aux capitalistes le droit à un dividende sur son capital placé. Le droit à une part de la production qui est due en partie à ce capital. L'ouvrier a une récompense pour son travail fourni. Cette récompense s'appelle salaire. Le capitaliste a droit à une récompense pour son capital fourni. Cette récompense s'appelle dividende. Mais pourquoi demander un dividende pour tous les citoyens? Est-ce que tous ont un capital dans la production? Oui, certainement. Et même le plus grand facteur de production moderne, c'est justement ce capital qui appartient collectivement à tous les membres de la société, et non pas seulement à quelques-uns, comme le capital piastre. Tout le monde comprend déjà que la production moderne n'est pas due seulement au travail de l'ouvrier, mais aussi au capital engagé. La production serait beaucoup moins grande s'il n'y avait pas l'apport du capitaliste qui permet de bâtir des usines, de les améliorer, de les équiper de machinerie toujours plus perfectionnée, d'y amener un flot de forces motrices qui sont des dizaines et des centaines de fois supérieures à la simple force musculaire des bras des employés. Mais cette force motrice, ces machines, seraient-elles possibles s'il n'y avait pas d'abord eu une succession de découvertes, d'inventions, d'applications de la science, les unes bénéficiant des précédentes et servant à leur tour d'échelon aux suivantes? Tout cela, toutes ces inventions, tous ces perfectionnements, accrus et transmis d'une génération à l'autre, grâce à l'existence d'une société ordonnée, avec des organismes qui veillent à la protection des valeurs acquises, tout cela, c'est bien des générations précédentes et c'est fait pour la génération actuelle. C'est aussi grâce à l'existence d'une vie en société que la division du travail est rendue possible. C'est-à-dire que les uns s'adonnent à la culture du sol, d'autres à la production de vêtements, d'autres à la construction de maisons ou de moyens de transport et de communication, etc. Cela permet une production beaucoup plus considérable que ne pourrait être la production totale d'individus dont chacun devrait voir lui-même à produire tout ce qu'il faut pour ses divers besoins. Toute cette richesse-là, les acquisitions accumulées et transmises d'une génération à l'autre, le savoir-faire grossi à travers les siècles, l'ordre social, la division du travail, toute cette richesse-là constitue un capital réel, un capital immense au service des vivants actuels, un capital qui n'a été gagné par aucun des vivants actuels, un capital qui n'est certainement pas, par conséquent, la propriété de quelques-uns plus que des autres. C'est un riche héritage commun, et les héritiers sont tous les vivants, et non pas seulement les capitalistes munis de piastres, et non pas seulement les ouvriers laborieux et compétents. C'est un bien communautaire, c'est un capital communautaire, et c'est le capital le plus productif. Sans lui, les piastres du capitaliste et le travail de l'ouvrier ne ferait certainement pas la centième, pas même la millième partie de ce qui sort de l'immense production moderne. Si ce gros facteur de production est un bien communautaire, que personne de nos contemporains n'a gagné plus qu'un autre, pourquoi ne doit-il pas procurer à tous et à chacun une part de l'immense production qui est due à l'existence de ce bien qui appartient à tous au même degré? Voilà pourquoi nous disons qu'un dividende périodique est dû à tous, à chacun des citoyens du pays, pour lui permettre d'obtenir une part de l'immense production offerte dans le pays grâce à ce capital réel, propriété de tous également, de tous sans exception. Sans doute que ce capital commun doit être mis en œuvre pour produire des biens adaptés aux besoins et nous ne nions pas une récompense spéciale à ceux qui le mettent en œuvre. Cette récompense, c'est leur salaire comme ouvrier ou leur profit comme entrepreneur. Mais les co-héritiers du grand capital ont aussi leurs droits, qu'ils soient ou non requis pour la production. Si j'ai une ferme et de la machinerie agricole et que je ne l'exploite pas moi-même, mais que je la confie à un autre pour l'exploiter, cet autre-là a des droits sur la production de la ferme, mais je conserve moi-même, à ce titre de propriétaire du capital ferme, je conserve le droit à au moins une part du rendement. Il en est ainsi pour tous les citoyens, qui sont tous co-capitalistes, copropriétaire du plus gros facteur de la production moderne. Il y a aussi une autre raison pour un revenu assuré à tous. Une raison basée sur un principe maintes fois rappelé par les papes à un monde qui l'oublie trop. C'est le droit fondamental de chaque être humain à user des biens terrestres. Ce droit ne peut être réalisé aujourd'hui sans la possession soit d'instruments de production, soit d'argent pour obtenir des produits qui sont mis sur le marché communautaire. Or, moins de la moitié de la production tire un revenu de la production. La grosse moitié, enfants, étudiants, mères et filles au foyer, malades, vieux, chômeurs, tout cela ne tire aucun revenu de leur emploi dans la production. Comment ces personnes-là peuvent-elles faire valoir leur droit à une part des biens terrestres sans obtenir du pouvoir d'achat d'une autre source que le salaire? Sans doute, les gouvernements commencent à s'en rendre compte, d'où leur débauche de sécurité sociale, dans lesquelles il reste hélas bien des trous, bien des insuffisances, et qui nécessitent des classements, des enquêtes, des fonctionnaires, etc. Puis pour financer ces mesures sociales, ils ne trouvent pas mieux à faire qu'enlever de l'argent à ceux qui en ont pour en passer un peu à ceux qui n'en ont pas. Cette opération-là n'est nullement conforme aux faits physiques de la capacité de production. C'est prendre dans le panier de Jean pour mettre dans le panier de Paul, alors que le pays a des excédents de produits que les pressions de vente et une publicité mastodonte ne suffisent pas à écouler. Le dividende est donc une chose due, et c'est une possibilité. Si l'on fait de la finance l'expression fidèle des réalités des possibilités physiques, il n'y a plus aucun doute que la distribution d'un dividende est aussi possible qu'est possible la production pour y répondre. Et quand on parle d'un dividende de 50 piastres par mois, ce n'est point non plus sortir de la relation qui doit exister entre le mode de production des biens et le mode de distribution du pouvoir d'achat. Un dividende de 50 piastres par mois à chacun des 19 millions de Canadiens signifierait un montant total de 11 400 millions, 11 milliards et demi. Cela peut équivaloir approximativement au quart de la production actuelle réalisée. Non pas de la capacité annuelle de production qui est bien plus considérable, mais cela signifierait un mode de distribution attribuant un quart de la production aux co-capitalistes du plus gros facteur de production et trois quarts à ceux qui contribuent personnellement à le mettre en œuvre. Ce n'est nullement exagéré quand la production est redevable au grand capital réel, non pas pour un quart, mais pour au moins 9 dixièmes de son volume. Que le pouvoir d'achat donc soit accordé à la production réalisée ou immédiatement réalisable, puis que le mode de distribution de ce pouvoir d'achat soit accordé aux facteurs entrant dans la production moderne, il n'y a aucun doute qu'un dividende de 50 piastres par mois reste encore bien en deçà de ce que devrait être la part de production garantie à tous par le moyen de dividendes. Et quand on voit les syndicats ouvriers et les groupements patronaux se faire la guerre pour la répartition du revenu de la production entre le travail et entre le capital, on remarque qu'ils règlent leurs affaires entre eux sans se soucier de ceux dont la production a de moins en moins besoin, comme si leur capital qui appartient à tous n'était pour rien dans cette production. Ces syndicats sont des formules dépassées, des formules désuètes. Le syndicat qu'il faut aujourd'hui, c'est une union de tous les citoyens à titre de co-capitalistes pour réclamer d'une grande voix, comme les congressistes de Montjoly l'ont fait, un dividende mensuel encore jamais distribué alors que tous y ont droit.
C'est M. Louis Hébin que nous venons d'entendre du journal Vert de mai. Voici l'adresse.